Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, I'm a chick carrot, hanging up daddy, or you'll be alone in a quick.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans YEG Radio, l'émission féminine nouvelle génération. On passe comme chaque semaine 30 minutes en votre compagnie afin de parler de l'actualité rennaise au féminin, l'actualité que vous retrouvez dans le magazine YEG bien évidemment, à lire et à découvrir sur yegmag.fr. Et je vous rappelle que vous pouvez lire le numéro 25 dont le dossier est consacré ce mois-ci à la médiation familiale et à ses objectifs. Alors comme je le dis chaque semaine, faites-vous plaisir, cliquez, lisez. Partagé à mes côtés dans YEG Radio, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
Alors cette semaine, tu as rencontré une artiste mosaïste qui pratique à Rennes.
Exactement, Stéphanie Leray-Corbin, elle a un atelier du côté donc, de la rue Francisco Ferré à Rennes et je vais vous parler d'elle justement, de son travail.
Très bien, elle connaît bien YEG, notre invitée. C'est une émission YEG by YEG, si on peut dire, mais pas que. Sophie Barrel est avec nous, elle est graphiste freelance. Et que l'on soit clair, elle est LA graphiste maquettiste de YEG, mais également étudiante à Rennes 2. Bonjour Sophie.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Super. Alors Sophie, tu viens nous parler aujourd'hui d'un travail que tu as réalisé cette année dans le cadre de tes études sur l'expression des souffrances des femmes sur Internet. On en parle dans un instant, mais avant on détaille le sommaire de cette émission. C'est parti. Cette semaine, on dresse le portrait de deux femmes qui travaillent à Rennes dans des secteurs différents. L'une, Cécile Apsara, est danseuse de flamenco et chorégraphe. L'autre, Stéphanie Leray-Corbin, est artiste mosaïste. On les découvre chacune leur tour dans un instant. Et bien évidemment, on passera 10 minutes avec Sophie Barrel pour parler des souffrances féminines exprimées sur Internet. On commence par celle qui s'est imprégnée de la culture flamenca, presque tombée dedans quand elle était petite et qui n'en est jamais ressortie depuis. Elle a les talons qui claquent contre le sol, elle effectue des mouvements langoureux, elle a les poignets qui roulent et qui jouent de leur dextérité. Il y a quelque chose d'intense dans le regard de la danseuse et chorégraphe flamenco Cécile Apsara quand elle exécute un extrait de son solo Sol. Issue d'une famille de musiciens, elle a goûté très tôt à l'émulation culturelle parisienne et c'est petite qu'elle a appris la danse classique, découvert la peinture, la danse africaine et l'aïkido. Quand on la rencontre, elle semble revivre avec une douce nostalgie les années 80 dont elle se souvient bien, une époque durant laquelle régnait un désir de grande liberté, très plaisant mais forcément dénué de cadre. Alors sa rencontre avec le flamenco va la transcender et ne plus jamais la quitter. C'est l'essence même de la liberté, il y a un esprit sauvage et libre, mais c'est aussi un art difficile au niveau de la technique, de l'apprentissage et des codes, c'est ce que nous a précisé Cécile Apsara. Séduite et habitée par la musique et la danse flamenco, elle prend des cours pendant un an avant d'aller au source, et comme les deux années à Madrid ne lui ont pas suffi à étancher sa soif, elle se met à danser dans les cabarets et au théâtre du Châtelet à Paris avec un de ses mentors, Antonio Gades. Elle raconte alors avec beaucoup de passion. Avec Paco de Lucía, musicien révolutionnaire, ils ont universalisé le flamenco, l'ont sorti de son aspect espagnolade pour l'amener vers une expression dramatique, pour lui donner du sens. Elle part ensuite vivre à Séville et baigne dans un univers qui lui colle à la peau. Elle nous dit « c'était la fin de la Movida, il y avait une douceur de vivre, une ambiance incroyable, électrique, on vivait, on sortait beaucoup ». Et c'est justement dans cette ville très traditionnelle qu'elle découvre l'exposition universelle, une manifestation justement très moderne. Donc des extrêmes complémentaires que la chorégraphe ne cessera d'allier dans ses spectacles, qu'elle présente avec la structure qu'elle fonde à Rennes, Apsara Flamenco. Alors tout ça, son histoire, ses rencontres, son lien avec le flamenco, sa philosophie de vie qu'elle transmet durant ses cours, se traduisent dans son spectacle Sol qu'elle a dévoilé au grand public le 16 mai dernier à Rennes. Je veux renouer avec moi-même, j'ai commencé en étant très libre et la discipline m'a cadré. L'idée est aujourd'hui de se libérer du cadre. C'est ainsi qu'elle conclut notre entrevue sur une phrase très inspirante, se libérer du cadre. On vous laisse y réfléchir durant une pause musicale en compagnie de Joan Jett et des Black Earths avec la reprise de Gary Glitter, Do You Wanna Touch Me. On revient tout de suite après.
Yeah.
On a Marie qui est en train de se prendre pour une rockstar dans le studio, c'est très sympa. Hein. Elle se libère du cadre, elle aussi, et Joanne Jett.
Ah bah vous m'avez demandé, vous nous aviez demandé de réfléchir à ce sujet.
Ah bah oui, c'est oui,
ce
que oui. Libérez-vous du cadre, je n'en attendais pas tant. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo dans ce studio. En tout cas, c'était Joanne Jett avec cette reprise de « Do you wanna touch me ?» Oh yeah, bien sûr. On reste un peu justement dans l'esprit du cadre et de se libérer du cadre. C'est un peu le laïus des luttes pour les droits des femmes. Et on en parle avec Sophie Barrel, graphiste en freelance, mais pas que. Tu es aussi étudiante à Rennes 2 et c'est dans le cadre de ton master que tu as travaillé sur un sujet qui touche les femmes, mais là encore, pas que. Alors, tu as réalisé un dossier de spécialisation qui prend la forme d'un mémoire collectif de plus de 1000 pages. Tu as choisi, toi, l'angle d'Internet comme moyen d'expression de la souffrance des femmes. Explique-nous comment tu as défini ton sujet.
Donc en fait, on avait un thème de base qui était donc la racialisation et l'organisation de la souffrance en Europe.
D'accord.
Et j'ai recentré le sujet en travaillant donc sur l'expression des femmes, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mmh. Et en fait, vu que je suis en infocom, j'ai choisi de travailler sur Internet pour recentrer encore un peu plus, parce que sinon, la souffrance, c'est un vaste sujet.
Oui, la souffrance en Europe.
Voilà. C'est vaste. Et j'ai du coup choisi de me recentrer en France encore un peu plus. Et j'ai pris un type de souffrance qui est en fait la souffrance par rapport au phénomène du harcèlement de rue.
D'accord, donc c'est spécifique harcèlement de rue.
Oui.
Et alors, tu as expliqué pourquoi le médium Internet, mais précisément, qu'est-ce que ça nous indique aussi Internet par rapport à ces souffrances et par rapport aux moyens d'expression utilisés? Tu ne l'as pas choisi par hasard, Internet.
Il y a eu des... Enfin, je l'ai choisi pour des raisons, on va dire, intellectuelles, par rapport à mon affection aussi, parce que bon, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais aussi pragmatique. Après, le sujet m'est venu avec un événement précis qui s'est passé il y a un peu plus d'un an, et demi, je dirais. Et en fait, donc j'étais sur mon ordinateur le soir, en train de geeker. Sur Twitter, et en fait j'ai assisté comme beaucoup d'autres gens à une sorte de live tweet d'une agression dans un espace public, donc une fille en fait qui venait de se faire agresser tout juste, elle avait son portable dans la main.
D'accord.
Et en fait sa première réaction était de live tweeter ce qui venait de se passer et de raconter ce qui se passait encore en fait, parce qu'il y avait des gens qui sont venus la réconforter, tout ça, et raconter tout ce qui se passait.
D'accord.
Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et je me suis dit qu'il y avait probablement un truc à faire avec ça. Et 9 mois après, j'avais donc un dossier réalisé. Et c'est la chose qui m'est venue à l'esprit tout de suite. Mm-mm. Et du coup, j'en ai conclu que les femmes et Internet, il y avait peut-être quelque chose en fait. Enfin, ouais. Il y avait un truc.
Et justement, savoir un petit peu cette réaction de tout de suite, on le met sur les réseaux sociaux plutôt qu'en parler à un entourage proche.
C'est ça. En fait, je pense
qu'on alerte l'opinion publique avant d'alerter nos proches.
Voilà. Parce que, enfin, moi, par exemple, quand je me fais agresser, j'appelais ma mère, mais là, il y avait un partage social de l'émotion, en fait. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'appelle, qui se déplace en fait sur les réseaux sociaux plutôt que d'appeler un proche, etc. Et du coup, je me suis intéressée à la pratique féminine en fait d'Internet.
Oui.
Est-ce qu'il y en a une déjà ou pas? Enfin, donc j'ai lu plein de bouquins là-dessus et il semblerait qu'il y ait des différences. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Il faudrait que j'arrive à trouver des études ou voir que j'en fasse une.
Ouais, mais, des études genrées justement pour savoir quelle utilisation les femmes en ont.
Voilà. Après, le fait est que on va dire que les médias, tout ce qui est officiel. Télé, même radio, journaux, etc. Il n'y a pas beaucoup de femmes quand même. Hein, donc, est-ce que Internet serait une sorte de média du pauvre en fait pour ceux qui n'ont pas l'accès à la parole?
Ouais.
Est-ce que Internet permet à ces gens-là de dire ce qu'ils ont à dire? Et au final, on se rend compte que sur Internet il y a tout, hein, c'est un fait. Mais il y a des femmes qui font des choses vraiment dingues. Enfin, je pense à la blogueuse Marlar qui avait fait un dossier sur le sexisme dans les jeux vidéo. Elle avait fait un vrai dossier hyper complet et tout, et qui a publié sur Internet, qui a beaucoup tourné, et grâce à ça, elle a pu s'exprimer ailleurs que sur Internet.
Ouais.
Mais c'est comme si, en fait, la femme devait faire ses preuves avant d'accéder à une place dans les médias. Et bah, Internet permet en fait cette, cette chose.
Justement, il leur permet de s'exprimer. Justement, on a vu, il y a beaucoup de blogs qui sont nés, de Tumblr, justement, qui ont fleuri un peu sur la toile, et les femmes s'en sont saisies pour témoigner, exprimer leur souffrance face aux violences subies. Alors, comment est-ce que tu as effectué tes recherches, justement, par rapport à ce médium ? Parce que donc, tu nous disais que tu t'es centrée sur la France, mais est-ce que du coup, t'as pu aussi approcher les Rennaises, Bretonnes ?
J'ai physiquement approché personne. En fait, mon corpus était composé uniquement de témoignages que j'ai récoltés sur Internet. J'avais pas de zone géographique définie. Par exemple, j'allais pas juste prendre Rennes, ou c'était vraiment toute la France. Et bon, même si dans les témoignages, les personnes disent où c'est arrivé, c'est pas toujours très précis, donc c'est pas évident. Mais je me suis vraiment recentrée sur le pays. En entier, et j'ai choisi des sites, par exemple Ola Black, où il y a beaucoup de témoignages par rapport au harcèlement de rue.
D'accord.
Ou des blogs que je connaissais déjà qui en parlaient beaucoup, qui étaient plus personnels.
Ouais.
Et donc j'ai récupéré plein de témoignages comme ça, sur une durée. En fait, j'ai choisi comme point de départ l'événement qui m'a donné l'idée du sujet. Donc sur une durée d'un peu plus d'un an, j'ai récolté des témoignages, mais je suis rentrée en contact avec personne. C'est un choix.
D'accord.
Je voulais pas en fait que le témoignage soit altéré par ma présence.
Ouais.
Que ça soit, enfin, si je leur dis c'est pour un mémoire, est-ce que, enfin, peut-être que leur réponse aurait été différente.
D'accord.
Que si je faisais vraiment juste de l'observation.
Là, c'était un état des lieux.
Oui,
pouvoir dresser un état des lieux. Alors, au cours de tes recherches, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? On en a déjà parlé, avec un petit peu ce... Tu nous as parlé du discours préétabli.
Et donc, en fait, je me suis rendu compte que les témoignages étaient quasiment tous les mêmes, que c'est les mêmes champs lexicaux, que c'est les mêmes façons d'écrire... c'est le même partage d'émotions. Donc les émotions les plus récurrentes, c'est la peur, la colère, la saturation et parfois la révolte. J'ai écrit un billet sur mon blog à ce sujet, et c'est un des titres en fait de ce billet. Et du coup, en fait, c'est vraiment les expressions les plus exprimées. Quand je parlais de discours préétabli, c'est dans le sens où elles ne vont pas se contenter de juste dire « j'ai eu peur » ou « je suis en colère ». C'est vraiment un récit. Ça peut aller mais jusqu'à 10 000 signes, en fait, un témoignage. C'est vraiment très long. Et en fait, la construction du récit est toujours la même. Il y a une introduction où en fait, on contextualise un peu ce qu'on est, ou pourquoi, comment, si elle est féministe ou si elle n'est pas, parce que c'est souvent très lié, en fait, ce type de témoignage avec « est-ce que je suis féministe ou pas ?»
Oui.
Ensuite, il y a l'élément perturbateur, donc souvent l'agression. Ensuite, elles expliquent ce qui s'est passé de façon très factuelle, puis elles disent qu'elles ont ressenti, elles, au niveau émotionnel, et enfin une conclusion qui est positive ou négative, dans le sens où soit elles saturent, elles en a marre, elles ne savent pas quoi faire, soit elles décident qu'il faut se battre et qu'il faut faire quelque chose. Et elles vont pousser d'autres femmes à témoigner.
Ouais.
Et en fait, cette accumulation de témoignages va faire que plus on en parle et... maintenant, les médias officiels vont en parler. Ça commence tout juste. Alors que si on regarde sur Internet, ça fait 2-3 ans
déjà. Ça fait très longtemps qu'on en parle, alors que les médias s'y intéressent maintenant. Depuis peu. Mais alors justement, ces femmes, qu'est-ce qu'elles cherchent dans le témoignage finalement ? Elles cherchent à informer, sensibiliser, ou justement elles cherchent l'empathie, la compassion ?
C'est la grande question que je me suis posée justement avec mon mémoire. Pourquoi ? Pourquoi le mettre sur Internet ? Pourquoi il y a un discours préétabli ? Pourquoi pas juste dire j'ai vécu ça, voilà. Mais même pourquoi avoir la démarche de le faire ? C'est quand même... je compare ça avec mon propre vécu parce que moi, je ne l'avais pas fait à l'époque.
Ouais.
Mais en fait, j'ai une impression de communauté qui se forme autour de ce phénomène. Et du coup, elles se lient les unes les autres. Il y a vraiment une communauté qui se crée en fait, avec des... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, là, comme ça.
Un peu les féministes légitimes, de par leur agression, dans la rue.
Il y a de ça, en fait. Et puis, c'est presque comme si avoir été agressée était une sorte de promotion sociale, bizarrement. C'est assez... Même en 100 pages, j'ai eu du mal, vraiment, à expliquer la chose. C'est assez particulier. Mais après, je pense que il y a aussi cette envie vraiment de faire changer les choses. Il y en a qui le disent clairement. On veut faire changer les choses et tout. Et c'est leur but. Elles vont finir par créer des associations, etc. Il y a l'envie que ça s'arrête, quoi.
En effet, justement, enfin, on sait que les femmes essayent aussi aujourd'hui de faire comprendre aux hommes la pression ressentie lorsqu'elles subissent du harcèlement de rue, comme par exemple le court-métrage d'Éléonore Pouria, donc Majorité opprimée, qui inverse les rôles. Alors, pour conclure, Sophie, tu étais déjà sensibilisée et même engagée pour les droits des femmes. Est-ce que ton mémoire offre une analyse à caractère militant ou est-ce qu'il dépeint un état des lieux que chacun, justement, devrait lire pour comprendre les mécanismes actuel d'expression des femmes?
J'ai volontairement voulu être objective pour être aussi à contresens des témoignages qui sont très dans l'émotionnel que j'ai pu lire. C'est aussi le but que j'ai eu avec Malouy et que j'ai écrit sur mon blog où je parle d'auteurs en fait, qui ont travaillé sur le harcèlement dans des lieux publics. Je suis vraiment partie plus sur un état des lieux. Je voulais pas forcément être militante. Je dis, il y en a qui le font pour faire changer les choses. Il y en a qui le font peut-être pour d'autres raisons. Mais enfin, c'est compliqué après de savoir comment ça se passe dans la tête des gens, parce que c'est l'observation pure. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un réel problème, parce que déjà, le fait qu'il y ait le champ lexical de la mort qui soit très très récurrent dans les témoignages est quand même hyper révélateur d'un problème important.
Oui.
J'ai lu beaucoup de femmes qui disaient « j'ai peur de mourir, j'ai eu peur de mourir », parce que bon, ça peut être juste un mec qui les insulte dans la rue. Mais c'est beaucoup, enfin c'est pire que ça pour elles en fait, de la façon dont elles le ressentent. Et ça serait bien que des gens comprennent que insulter une femme dans la rue peut être beaucoup plus impactant que ce qu'ils imaginent, que ça peut vraiment imprimer en elles une expérience de la mort symbolique certes, mais présente quand même. Donc c'est pas rien.
Très bien. Où est-ce qu'on peut lire ton mémoire, enfin ton dossier de spécialisation? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le lire, le trouver?
Non, pas encore. Je pense en fait potentiellement le continuer l'année prochaine. Il pourra peut-être être lu si j'estime qu'il est absolument parfait. Donc en attendant, je suis prête à le retravailler selon certains angles, si ça intéresse des gens, ou à en parler, ou pourquoi pas, je sais pas, d'autres radios, ou réécrire d'autres articles, ou... C'est pas un problème. Si je peux en former dessus, c'est cool.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. On ne manquera pas, évidemment, de parler de harcèlement à Rennes, précisément dans YEG et sur yegmag.fr. Sophie, tu restes avec nous dans un instant. Marie, tu nous expliques en quoi consiste le travail d'une artiste mosaïste à travers le portrait de Stéphanie Lerey-Corbin. Juste avant, on écoute L7 avec Shitlist. Bonne écoute sur YEG Radio. Ça déménage avec L7. On vient d'entendre la chanson Shitlist. Ça met la pêche en tout cas. Ça, c'est au moins une bonne chose. De quoi bien continuer cette émission. Alors, est-ce que c'est rock'n'roll les mosaïques ? Vaste question, bien évidemment, qu'on se pose très souvent. En tout cas, l'artiste dont on vous parle, oh, c'est pas facile, elle se libère elle aussi du cadre. Coïncidence ? Je ne crois pas. Marie, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une mosaïste qui exerce à Rennes.
Oui, Marine, de Stéphanie Leray-Corbin. Elle exerce depuis 10 ans le métier de mosaïste et tient un atelier à Rennes, rue Francisco Ferré, du côté du métro Clémenceau, un endroit dans lequel elle fait découvrir une partie de ses créations et sa façon de travailler, une vraie caverne d'Ali Baba, en fait, cet atelier, rempli de beaucoup de faïences, de pierres de toutes les couleurs, de biplates, de pâtes de verre, de pinces, de pigments de couleur, de colle et j'en passe. C'est là que je réfléchis, que j'imagine et que je réalise, m'a-t-elle confié. Dans cet endroit, elle accueille également ceux qui souhaitent s'initier à la mosaïque, des enfants et des adultes. Elle propose ainsi des cours à la carte, en journée ou en soirée, et des stages à thème, en partenariat avec des céramistes ou encore des vitraillistes, plein d'autres artistes. Pour elle, cette activité est accessible à tout le monde et à tout âge, on peut faire des choses très abstraites avec un joli résultat, m'a-t-elle expliqué, en ajoutant que la plupart disent d'ailleurs que ça leur fait du bien, qu'ils se vident la tête et se laissent aller. Sachez que la mosaïque s'intègre très bien en art-thérapie, selon elle. Et puis elle propose de mettre en avant le travail d'autres artistes, des peintres, des sculpteurs, des illustrateurs par exemple. Mais quelle est sa méthode de travail ? Eh bien Stéphanie réalise en amont un dessin. Elle détermine les couleurs, découpe les matériaux, du marbre, de la pâte de verre, du grès cérame, avec une pince ou une marteline, c'est une espèce de marteau voilà, qui est assez pointu. Puis utilise le mortier-colle avec ou sans pigment de couleur, en ajoutant parfois du mortier-joint pour les finitions. Stéphanie fait de la mosaïque contemporaine. De ce fait, elle ne s'impose pas de règles. Elle mélange les matières et n'hésite pas à détourner les objets. C'est pour cela qu'à sa dernière exposition, qui se termine d'ailleurs aujourd'hui hein, chez le libraire disquaire Blind Spot, rue Poulain du Parc à Rennes, elle utilise entre autres des embauchoirs, des diapositives, des disques, des totems, des assiettes comme support. Donc c'est assez original. Ses inspirations sont issues de l'univers de la bande dessinée, du street art, de l'art en général et de la nature. On retrouve beaucoup de galets, d'ardoises ou de pierres dans ses créations. C'est un peu par hasard en fait que Stéphanie Leray-Corbin s'est dirigée vers ce métier, même si selon elle le hasard est toujours bien fait, puisqu'au départ elle travaillait au développement de projets socio-culturels et artistiques. Mais après la naissance de son 2e enfant, une période de chômage et des remises en question professionnelles, eh bien elle s'est vraiment intéressée à la mosaïque et a décidé de se lancer dans ce domaine. J'ai monté mon entreprise avec le soutien de la boutique de gestion et une conseillère m'a suivie pendant 3 ans, m'a-t-elle raconté. Sans compter que cette pratique est une passion familiale puisque son grand-père, artiste peintre, faisait lui-même de la mosaïque pour se divertir et que son fils adore ça. Pour terminer en tout cas sur cette femme, notez bien que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, est présentée son exposition Axel Pixel rue Poulain du Parc et que pour cet été elle cherche d'autres lieux d'exposition comme des galeries un peu plus compliquées selon elle. Ses projets, elle en a bien sûr, continuer le mélange pixel art et mosaïque, les créations géométriques et la mosaïque monumentale sur du polystyrène et pourquoi pas se former à l'art-thérapie. En tout cas, on l'encourage à Yagmag.
Eh voilà. Bah très bien, merci beaucoup Marie. Sans transition, on passe à l'instant féministe, la rubrique qui vous fait découvrir la culture féminine. Un instant qui colle parfaitement avec le sujet dont on parlait dans le 10 minutes avec Sophie Barrel, puisqu'on attire votre attention cette semaine sur l'initiative de l'association Colère non féminin. Laura, la créatrice de l'association, explique lors d'une interview accordée au site mademoiselle.com qu'elle était excédée par le harcèlement de rue et par les commentaires désobligeants de certains internautes à la suite de témoignages exprimés sur la toile. Et c'est dans cet esprit de révolte qu'elle a choisi, avec plusieurs autres personnes, de lancer un projet contre le harcèlement de rue. Résultat, leur message est diffusé sur des débardeurs et des tote bags que l'on peut acheter sur internet. Je précise que 50% des revenus devraient être versés à une association, donc des associations qui luttent évidemment contre les discriminations et les inégalités. Alors qu'est-ce qu'on peut y lire sur ces débardeurs et ces sacs ? Eh bien forcément le message « ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule ». Un message qui n'est pas au goût de toutes et de tous. Pourtant nous, on l'avoue, on est plutôt séduites, car le message message derrière son côté choc que l'on peut considérer provoque, ou justement peut-être pas assez provoque, interpelle et interroge. On vous invite donc à aller faire un tour sur le site colerenonféminin.bigcartel.com et je crois avoir vu Sophie entrer dans les studios avec ce fameux tote bag justement. Alors, ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule, ça donne quoi comme réaction ?
Eh bien, dans le métro, j'ai vu 2-3 garçons se marrer en regardant mon sac. Ils ont trouvé ça rigolo, ils se sont montrés du doigt, genre « Oh, 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 tu as vu ?» Enfin, ça fait rire, quoi. Donc, il y a des gens qui avaient peur que ça soit limite provocateur, mais en fait, ouais. Pas du tout. Ils le prennent bien.
D'accord.
Donc, bon, tant mieux.
Tant que ça rigole, mais que ça n'essaye pas.
Ah, mais de toute façon, je pense que si une personne prend ça pour de la provocation, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est genre, hey, mais je vais essayer dans ces cas-là.
Bah oui.
Non, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais ça m'est pas arrivé, donc tant mieux.
Et bah, on souhaite d'ailleurs que ça ne t'arrive pas. Hein, ce serait quand même pas une bonne chose.
C'est pas grave, au pire, j'ai ma main.
Au pire.
Oui.
Sinon, les pieds. Les...
Ou autre chose.
Oui, tu crochettes dans les yeux. J'ai appris ça en self-défense.
Oui, oui.
Faut crocheter les yeux. Tout va bien en tout cas. Alors, avec le tote bag de l'association Colère Non Féminin, on est paré pour sortir. Et justement, ça tombe bien puisqu'on sort cette semaine. Marie, où est-ce que tu nous emmènes ? Tu nous dis tout dans l'agenda des bonnes sorties. Que passe-t-il cette semaine, Marie ?
Eh bien, du 28 mai au 4 juin, il y a plein de choses à faire à Rennes. Notez que jusqu'au 31 mai, au Théâtre du Cercle à Rennes, aura lieu le Festival des créations amateurs, proposé par des lycéens et des adultes. 3 dates sont encore à retenir, les 29, 30 et 31 mai, et 1h, 20h30, puisqu'un spectacle Living Room, mis en scène par Charlotte Blin, sera présenté, une sorte de polar et de comique réunissant 12 comédiens sur scène. Autre festival qui durera jusqu'au 27 juin, le Festival Les Envolées, 33e édition, un rendez-vous qui met à l'honneur le travail réalisé lors des ateliers artistiques de la paillette, au menu du théâtre, de la danse, de la musique et une exposition avec ce soir à 20h30 une représentation Le chien, la nuit et le couteau programmée avec des adultes confirmés. Et pour terminer, notez que cette semaine et jusqu'au 9 juin, l'association Tango Argentin Braise Tango fête ses 20 ans à Rennes. À cette occasion, elle organise un peu partout dans la ville des animations autour de cette activité, des initiations, des projections de films, du théâtre, de la musique, une expo photo et puis une conférence gratuite le 2 juin si le Tango m'était compté, animé par Solange Baselli au Triangle.
Merci beaucoup Marie, et il se pourrait que Yeg soit justement à ses 20 ans, peut-être dans une initiation, peut-être dans le cadre d'un Yeg and the City, on sait pas, on n'en dit pas plus, puisque l'émission touche malheureusement à sa fin. Yeg Radio, c'est fini, mais toute l'actualité rennaise au féminin est à suivre au quotidien sur yegmag.fr, et je vous rappelle que le numéro 25 de Yeg est en ligne, alors allez-y, faites-vous plaisir, cliquez, lisez, partagez, et le numéro 26 ne tardera pas à être en ligne, sortie prévue le jeudi 5 juin, n'est-ce pas Sophie ?
Oui.
Oui, tout à fait, je suis à bloc.
Je suis à bloc, ce fut court mais intense.
Merci Sophie et à très bientôt justement. Je remercie toute l'équipe de Yeg Radio, Claude qui réalise cette émission, Marie Lelevier journaliste pour Yeg. On parlait du numéro 26, celui-là va être coloré, plein de revendications et de festivités. Hein.
Exactement Marine.
Mais on n'en dit pas plus, tout de suite votre émission sur écoute. Merci à toutes et à tous, on se retrouve dans Yeg Radio la semaine prochaine, même jour, même heure. Musique !